réplique du bon usage de Martin Heidegger avec Adrien France-Lanor et Christian Sommer. Je sais ce qu'il peut y avoir d'incongru et de malséant à définir en termes d'usage le rapport à un philosophe dont l'œuvre tout entière nous met en garde contre le monopole de la pensée calculante, ou pour le dire autrement, contre le despotisme de la raison utilitaire. Mais il est vrai que nous ne savons pas comment en user avec Heidegger, comment l'aborder, comment le traiter, quel regard porté sur lui, avec quelle pincette le prendre. On aimerait pouvoir commencer un cours ou une émission sur l'auteur des chemins qui ne mènent nulle part en disant de lui ce qu'il a dit lui-même de l'auteur de l'éthique à Nicomaque. Nous allons parler de la vie et de l'œuvre d'Aristote. D'abord sa vie. Aristote est né, il a vécu et il est mort. Et maintenant, parlons de son œuvre. Nous ne le pouvons pas, car il y a eu un moment Hitler dans la vie de Heidegger. Dans l'imposant dictionnaire Heidegger, qui paraît aux éditions du Cerf, de nombreux articles interrogent ce moment et ils envisagent toutes les questions qu'il porte. Les Heideggeriens, donc, ne se dérobent pas. Je ferai comme eux et je demanderai, pour commencer, à mes deux invités, Adrien France-Lanor, qui est un des maîtres d'œuvre du dictionnaire Heidegger, et à Christian Sommer, qui a publié récemment Heidegger 1933, le programme platonicien du discours du rectorat, quel sens il faut donner à l'adhésion temporaire de Heidegger au national-socialisme. Cet engagement engage-t-il son œuvre, Adrien France-Lanor?
D'une certaine manière, l'œuvre elle-même peut nous aider à répondre, dans la mesure où son œuvre et la pensée du Dasein en particulier l'a protégée contre sa faute en 1933-1934, pour une raison à mon avis fondamentale, c'est que le Dasein s'oppose à toute la pensée de la race et au biologisme. Mais il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est d'une certaine manière une actualité brûlante. Et j'aimerais ajouter quelque chose à l'article antisémitisme que j'ai écrit et qui commence de la manière suivante. Il n'y a dans toute l'œuvre de Heidegger publiée à ce jour pas une seule phrase antisémite. Et à partir d'une rumeur, d'abord, j'ai découvert il y a 2 semaines des extraits de textes apparaître au printemps prochain en Allemagne qui m'obligent à modifier cet article et notamment cette première phrase. Donc vont donc paraître 3 volumes de réflexions à caractère privé, rédigés entre 1933 et 1945, ou peut-être un peu plus tard également. C'est différent des cours publics, qui sont tous publiés désormais, en tout cas en allemand, différent aussi des traités impubliés que nous avons, et cours et traités dans lesquels, effectivement, il n'y a aucun propos antisémite. Alors parmi ces réflexions, 900 pages à peu près, il y a une quinzaine de passages rédigé entre 1937 et 1941, où il est question du judaïsme. Dans ces extraits, un certain nombre de propos sont choquants, lamentables, et quelques-uns même insupportables, en regard du contexte dans lequel ils ont été écrits. Je ne vous cache pas que j'en suis très ébranlé, je le suis encore, très triste devant un tel défaut de pensée, une telle faillite de la pensée dans certains de ces extraits. Alors j'aimerais en dire quelques mots, en 5 points. Je vais aller directement à l'essentiel, faire au plus vite. La première chose, c'est qu'il y a plusieurs endroits, ce sont des notes, donc dans un contexte précis, il répond, il s'explique, et notamment avec l'actualité et le discours nazi ambiant. Il reprend éventuellement certains vocables, il y a avec des italiques, des guillemets, enfin il y a toute une espèce de côté débat avec les circonstances. Et ça ne signifie pas qu'il souscrit systématiquement, bien entendu. Par exemple, il y a ce propos qu'on peut lire, Heidegger écrit donc dans ses notes. l'on ne devrait pas s'emporter par trop bruyamment contre la psychanalyse du juif Freud entre guillemets, alors que, et aussi longtemps que, l'on ne peut absolument pas penser autrement à propos de tout et de n'importe quoi qu'en reconduisant tout à une expression de la vie ou aux instincts et à la perte de l'instinct. Ce qui signifie en gros que là, Heidegger dit que les nazis ont beau jeu de s'emporter contre le juif Freud, alors que par rapport au biologisme de Freud, d'une certaine façon, ils n'ont à opposer qu'un autre biologisme. Le deuxième point, c'est qu'on entrevoit d'ailleurs dans ce propos, c'est qu'il arrive à Heidegger de répondre au discours nazi et de s'y opposer, notamment parce qu'il s'est toujours opposé au racisme, et même quand il parle du judaïsme, et il s'y oppose à nouveau. Voilà par exemple un des propos, un extrait qu'on peut lire. « La question du rôle du judaïsme mondial n'est pas une question raciale. C'est la question métaphysique, je saute, du déracinement de tout étant hors de l'être. » Alors ici, on voit apparaître un troisième aspect qui est, à mon avis, le plus consternant, parce que c'est là que le défaut de pensée est le plus criant. Il plaque sur le judaïsme sa propre pensée, en l'occurrence celle de l'histoire de l'être, et finit donc par critiquer le judaïsme à partir de l'histoire de l'être dans l'horizon de la Machenschaft, c'est-à-dire du règne, la machination, le règne de l'efficience, du calcul, etc.
Et alors, il dit que...
Ce qui fait que le judaïsme se trouve critiqué, par exemple, au même titre que d'autres ismes qui dénoncent également le christianisme, le nazisme, le bolchevisme, l'américanisme et l'impérialisme anglais.
Comme modalité de ce règne de la
comme
machination.
Comme modalité du règne de la machination.
Oui.
Voilà un exemple, toujours dans ses remarques. L'une des configurations les plus cachées du gigantesque, qui est un concept typique de la machination, où il y a un article dans le dictionnaire sur le gigantesque, l'une des configurations les plus cachées du gigantesque, et peut-être la plus ancienne, est la tenace habileté à compter, à déplacer, à combiner, par quoi se trouve fondée l'absence de monde du judaïsme. Avec ce propos, on aperçoit aussi un dernier aspect, lamentable également, et c'est celui où vient percer, dans le propos d'Heidegger, le plus directement l'élément antisémite, le plus vulgaire, le plus ancien, à savoir associer le judaïsme au calcul et au marchandage, et interpréter cette prétendue faculté de calcul de manière historiale. Il y a un exemple que je peux donner, il parle de la rationalité par ailleurs vide et une faculté de calcul qui serait propre au judaïsme, pas à lui seul, encore une fois, parce qu'il dénonce aussi la faculté de calcul chez les Allemands, chez les Anglais, dans l'américanisme, etc. Mais enfin, il l'applique au judaïsme sans s'interroger, sans s'arrêter. Et cela l'amène même à dire que ça empêcherait les Juifs de parvenir à la zone des questions philosophiques essentielles. Et là, il parle par exemple de Husserl, nommément, dans un passage vraiment d'une très grande tristesse. Le cinquième point, au milieu de cet ensemble affligeant, c'est un propos qui sera dans un autre volume et qu'il faut citer également. Le voici en entier. « Prophétie, telle est la technique pour se défendre contre de ce qu'il y a de destinal dans l'histoire. Elle est un instrument de la volonté de puissance. Que les grands prophètes sont des juifs est un fait dont le secret n'a pas été encore pensé. » Entre parenthèses, note pour les ânes, la remarque n'a rien à voir avec de l'antisémitisme. Celui-ci est aussi insensé et aussi abject que le procédé, sanglant même et avant tout non sanglant, qui fut celui du christianisme contre les païens. Alors, dans ce propos, on observe à nouveau la plus complète ignorance de la pensée juive. C'est une lecture de la prophétie vraiment lamentable, d'une ignorance complète.
Et en même temps, un refus d'antisémitisme.
Et en même temps, un refus clair et net de l'antisémitisme, ce qui corrobore aussi les faits et gestes de Heidegger et sa manière d'agir, notamment pendant le rectorat et pendant toute sa vie. Et sur ce plan-là, ce que je dis dans l'article antisémitisme ne change
reste
pas,
valide.
Ne reste valide. Ouais. Alors moi, j'aimerais dire quelques petites choses encore à propos de ces fragments qui m'atteignent particulièrement. D'abord, la grande prudence. Il faudra attendre effectivement que tous les volumes paraissent et qu'on ait l'ensemble des réflexions. Je pense qu'il y aura aussi beaucoup de réflexions critiques sur le nazisme très développées. Et il faut tenir tous les aspects ensemble, ne pas simplifier ça dans le cadre d'une affaire Heidegger qui recommencerait avec la défense, l'attaque, etc. Moi, je ne travaille pas dans cet espace, souvent médiatique, d'une extrême violence. Et en revanche, je crois que ça soulève des questions nouvelles, questions philosophiques très importantes. D'une part, la cécité philosophique, pas seulement celle de Heidegger, à l'égard de la pensée juive. On pourrait citer Marx, on pourrait citer Schopenhauer, on pourrait citer beaucoup d'autres philosophes. D'autre part, la question de l'essence même de la pensée. Devant une telle faillite, il faut se poser la question de l'essence même de la pensée, de sa finitude et du rapport qu'elle entretient avec un penseur et son temps. Et pour ça, moi j'avoue que j'ai besoin d'abord de beaucoup de silence.
Alors comment réagissez-vous à ce que vous venez d'entendre ?
Moi aussi, j'ai envie d'ajouter une page à mon ouvrage, et j'ai aussi des inédits à portée de main. Enfin, je trouve votre méthode assez... Elle me laisse un peu perplexe, parce que vous parlez là de textes qui... Enfin, qui doivent être publiés au printemps, au mois de mars... Et enfin, personne les a vus, en principe.
Ce n'est pas une méthode, là, c'est plutôt un ébranlement.
C'est d'abord un ébranlement, si vous voulez.
Pour un Heideggerien, quand même.
Il y a une rumeur, vous ne l'ignorez pas, tout Paris le sait. Il y a déjà, déjà maintenant sur le blog du Monde, il y a déjà une annonce. J'ai le Nouvel Observateur qui m'a téléphoné il y a deux jours. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit tellement caché. Moi, face à cette rumeur, je me suis inquiété. J'ai voulu consulter les textes. Vous comprenez bien qu'ayant écrit ce que j'ai écrit, je sois concerné au premier chef.
Alors donc, évidemment, il me semble difficile de réagir à chaud face à ces textes. D'ailleurs, vous les avez lus dans une traduction. Il faudrait voir.
Non, je les ai lus en allemand.
Là, à l'antenne, vous avez lu une traduction.
Mais est-ce qu'il confirme ces textes, l'idée que vous faisiez de Heidegger, ou est-ce que comme Adrien Frontanor, vous êtes ébranlé, vous pouvez dire que vous ne vous y attendiez pas, c'est ça un peu.
Alors bon, évidemment, il y a des formules surprenantes, bien sûr, mais si on considère le corpus de Heidegger publié à ce jour, il y a des passages déjà qui peuvent indiquer une certaine attitude de Heidegger, une certaine critique, voire un rejet du judaïsme, je dirais plutôt pour nuancer, il y a chez lui une sorte d'anti-judéo-christianisme. Et je parle du deuxième Heidegger, toujours, le Heidegger des années 30, qui est engagé dans une sorte de projet, c'est comme ça que je le lis, un projet, un programme théologico-politique, où les monothéismes traditionnels sont censés être dépassés. Donc judaïsme et christianisme. Et parfois, ça va avec une certaine virulence. Donc ce que vous avez lu là, c'est... Certaines phrases sont, on va dire, antisémites.
C'est d'un autre ordre, là.
Pour moi, c'est un effet, cet antisémitisme, car effectivement, il converge en partie, il converge avec ce qu'on peut trouver sous la plume de certains idéologues du Troisième Reich. Cet antisémitisme est plutôt un effet de cette structure, on va dire, anti-judéo-chrétienne que je trouve, moi, dans la pensée de Heidegger, structure anti-judéo-chrétienne qui se comprend par contraste, c'est-à-dire la position de Heidegger dans les années 30 est la position d'une sorte d'utopiste qui cherche à fonder une nouvelle civilisation, voire une nouvelle religion. Alors, religion, évidemment, sous la plume de Heidegger, c'est trop latin, c'est trop romain. Rückbindung, en allemand, c'est autre chose. Alors, quand on lit un peu, il faut décrypter les textes, parce que Heidegger, c'est un peu un cryptologue. Dans son cours sur Hölderlin en 1934-1935, il parle de Rückbindung an die Götter. Donc, Rückbindung, fait de relier au Dieu. Il dit il faut relier le peuple au Dieu. Une espèce de religion, donc, si je retraduis en latin, religion du peuple à ses dieux. Ces dieux sont prophétisés, annoncés par Hölderlin. Quand ces dieux vont se manifester, manifeste-toi, Dieu. Ça, c'est vraiment, il y a une espèce de théophanie qui est souhaitée par Heidegger, qu'il dont il voit la structure chez Hölderlin, le dernier Hölderlin, eh bien, quand ces dieux vont se manifester et quand ces dieux vont pouvoir arriver dans le site, il parle de milieu du peuple, c'est-à-dire la police, enfin le site politique, entre guillemets, du peuple, alors ça fera événement. Il y aura révolution, en quelque sorte. Et donc, cette révolution s'inscrit dans un horizon, pour moi, clairement utopique, d'alternative, pour moi aberrante, alternative à toute la tradition de la métaphysique, comme dit Heidegger. D'ailleurs, les dieux hölderliniens, lus tels qu'ils sont lus par Heidegger, sont clairement post-ontothéologiques, donc ce ne sont plus des dieux qui pourraient se penser, d'après Heidegger, dans les termes du dieu des monothéismes. Donc je crois qu'on peut, évidemment, c'est des choses un peu complexes, donc il faudrait beaucoup de temps pour les analyser, mais on peut voir que Heidegger est plutôt, dans les années 30, dans une sorte de polythéisme, il y a plusieurs dieux, par l'importance de la terre, la Erde. Heidegger est, on va dire, proche d'une certaine tendance néo-religion octonienne, tellurique. Il y a d'autres courants à la même époque. Tout ça, c'est assez intéressant à analyser, mais d'un point de vue historique. Voilà. Donc, si vous voulez, cette structure néo-païenne, entre guillemets, explique pour moi, ou pourrait expliquer que, évidemment, il y a aussi forcément une forme d'antisémitisme chez Heidegger. Alors, il faudrait quand même être naïf pour croire que quelqu'un qui soutient Hitler très longtemps ne partage pas d'une certaine façon et de façon compliquée sans doute l'antisémitisme de Hitler.
Adrien Fransaner.
Je pense que sur ce dernier point, c'est très problématique parce qu'il ne soutient pas l'antisémitisme de Hitler, puisque l'antisémitisme de Hitler est raciste.
Oui, d'accord, racialiste. Mais il sait qu'Hitler est antisémite. Oui. C'est impossible de ne pas le savoir.
Bien entendu.
Et quand bien même, vous citez ce passage du discours du rectorat où il parle du Führer, oui, et à l'exclusion presque des idées du national-socialisme, une confiance dans le Führer, oui, et non, oui, forcément dans les idées du national-socialisme, oui, mais les imprécations de ce Führer, tout le monde les connaît. Alors peut-être qu'un antisémitisme de type racial peut rencontrer chez Heidegger une hostilité aux Juifs enracinée ailleurs, dans une espèce aussi de romantisme, enfin une certaine idée de l'esprit d'un peuple ou de l'esprit, oui, tout court, qui peut s'opposer au matérialisme sémite, par exemple.
Oui, mais moi, cette idée du matérialisme sémite, je la trouve très étrange. C'est la première chose qui me choque dans les propos, d'être dans cette idée que le Juif a une faculté de calcul, etc.
Ah oui, mais ça il
grotesque.
Le dit.
Enfin,
oui, mais ça, il le dit, c'est bien.
Ça, il le dit,
oui,
et,
donc c'est là.
Et c'est là que je trouve la chose, oui, vraiment, disons, choquante. Il ne faut pas oublier l'attitude de Heidegger pendant le rectorat. C'est-à-dire, il n'y a pas le moindre geste antisémite de Heidegger pendant cette période. Ça commence, je vous rappelle, par l'interdiction de l'affichage du placard antisémite dans l'université. Il y a des témoins qui l'exposent, je le raconte dans l'article antisémite. Il y a la lettre de l'hiver 32-33 à Hannah Arendt où elle dit « il y a des rumeurs antisémites sur toi ». Il est indigné qu'on puisse penser ça. Il y a les lettres qu'il envoie quand passe la loi sur le fonctionnariat à Husserl, à Blochmann, en disant « dans ces temps difficiles », etc. etc. C'est pas quelqu'un qui est insensible au destin des Juifs. C'est quelqu'un qui, quand il s'est engagé en 1933, est effectivement dans une espèce de surdétermination historiale. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très grave qui se passe à ce moment-là en Europe. Il y a d'un côté le bolchevisme, qui a fait faillite, la révolution a fait faillite, j'explique tout ça dans l'article Le Peuple. Il y a de l'autre côté le libéralisme américain et la crise financière, dont il voit aussi que ça n'est pas viable pour l'avenir. Et il voit le nazisme sans illusion sur la vision du monde, mais avec l'idée que si tout le monde se met avec Hitler, il y a quelque chose à tenter. Et là, effectivement, c'est une erreur magistrale, ce qui ne veut pas dire qu'il était aveugle sur, il le dit dans la lettre à son frère, toutes sortes de choses répugnantes, etc. Il le dit aussi, ça.
Mais alors, là-dessus, quand même, je voudrais vous soumettre une hypothèse. Alors d'abord, j'ai fait déjà des émissions sur Heidegger il y a quelque temps, sur cette question, et notamment un dialogue entre Robert Le Gros et François Fédier. L'hypothèse développée par Robert Le Gros consistait à interpréter l'engagement national-socialiste de Heidegger comme une réaction liée, malgré tout, à une vision romantique de la vie politique, romantique, anti-humaniste, anti-universaliste, parce que rien de grand ne peut naître là où l'homme n'est pas enraciné dans une tradition, et donc Heidegger opposerait, comme les romantiques, l'esprit comme monde spirituel d'un peuple, comme sensibilité d'un peuple, non seulement à l'entendement, mais encore à la raison universelle. Et, alors c'est vrai, il s'est rendu compte que le national-socialisme n'était pas susceptible de faire face au péril dont il voyait les signes dans toutes les manifestations de la modernité, car fondée sur l'idée d'un peuple qui, en raison de sa supériorité affirmée comme naturelle, est destiné à dominer les autres, à s'imposer par sa puissance conquérante, à élargir son espace vital. Donc, tout d'un coup, le nazisme se retrouvait être une des modalités, et peut-être la pire, de la dévastation du nihilisme extrême. C'est vrai, mais d'un autre côté, alors ensuite il y a eu le tournant, Heidegger a essayé de penser tout ça, mais sans faire les distinctions, et c'est ce que vous avez dit au début, Adrien Franz Tanner, il y a cette machination, cette espèce de technique déchaînée, et il envoie des manifestations partout. L'américanisme, le communisme, le national-socialisme avec les fureurs, le judaïsme, pourquoi pas, puisque c'est quand même la raison calculante, etc. Et donc, il a manqué, après le tournant à Heidegger, justement, ce sens-là indispensable des différences. Il aurait dû voir, malgré tout, ce que le nazisme avait d'atrocement spécifique, notamment cet antisémitisme, et Michel Arre, qui est un grand philosophe heideggerien, dans La fracture de l'histoire, parle de la blessure, du malaise que nous inflige chez Heidegger la critique radicale de tous les systèmes politiques contemporains dans le cadre de cette description apocalyptique de l'anarchie des catastrophes, de la dévastation générale. Christian Sommer.
Oui, il y a beaucoup effectivement d'éléments qui sont présentés, mais vous avez raison. Mais en même temps, je crois que on a besoin, vu l'état des textes et vu la complexité de la situation historique des années 30, on a besoin de certains schèmes et de modèles d'interprétation pour essayer de situer Heidegger. Alors, en ce qui concerne évidemment la tradition romantique, il est évident, d'ailleurs il y a des études intéressantes sur ce point, il est évident que Heidegger prolonge et porte parfois jusqu'à un certain paroxysme certaines lignes une tradition romantique, c'est vrai. Ça, c'est une chose. Il faudrait en parler plus en détail. Mais quant au national-socialisme,
c'est toujours péjoratif.
Oui, mais c'est dans la bouche de Heidegger. Toujours. Mais nous sommes là pour étudier ce que dit Heidegger. Donc, on peut avoir un peu de distance, évidemment. Donc, c'est pas parce qu'Heidegger dit je ne fais pas partie de la tradition romantique qu'il n'en fait pas partie.
Oui, c'est ça.
Donc, il faudrait peut-être essayer d'avoir un peu de recul.
Qu'il le dise et qu'il l'ait aussi
pensé. Il faut le prendre en compte.
Ça n'est pas rien.
D'accord. Et après, il faut essayer d'avoir un esprit critique.
Pas un romantique non plus.
Oui, il n'est pas question de ça, évidemment. Mais donc, pour le national-socialisme, je pense qu'il est important de voir la chose suivante, et c'est très simple, au fond. C'est très simple. C'est que pour Heidegger, il y a un national-socialisme vulgaire. On trouve des passages un peu partout.
Tout à fait.
Ouais. Et l'idée et le mot s'y trouvent. Bon, mais il y a l'idée d'un national-socialisme de l'esprit. Geistiger Nationalsozialismus. Voilà. Et c'est là où on a donc ce schème qui permet un peu d'éclairer, de comprendre aussi sa position critique à l'égard du national-socialisme vulgaire. Voilà, c'est une opposition, souvent, pas toujours, c'est très complexe le national-socialisme, il y en a toujours plusieurs. Il y a plusieurs courants, il y a plusieurs personnes, il y a des universitaires qui ne sont pas toujours d'accord. Bon. Et Heidegger, là-dedans, c'est un courant, lui tout seul, en quelque sorte, même s'il il absorbe et résume des courants traditionnels qui aboutissent dans les années 30 au national-socialisme. Mais il faut bien comprendre que s'il critique certains adversaires, qu'il considère comme adversaires, c'est pour lui le national-socialisme vulgaire. Mais c'est au nom d'une version spiritualisée, je dirais utopique aussi, ce qu'il appelle le possible, en quelque sorte, du national-socialisme. Et je pense que c'est là où est le problème, justement. Oui, parce qu'il voit ce possible, il le voit très clairement, articulé par Hölderlin. Dans le sens où l'essence du peuple allemand à venir est configurée par la langue, la Urdichtung, la poésie, l'archi-poésie de Hölderlin. Et le problème est justement politique aussi, puisque Heidegger pense qu'il va pouvoir réaliser d'une façon étrange et complexe, sans doute, je ne sais pas pendant combien de temps il a cette conviction, il va pouvoir réaliser l'idée du peuple hölderlinien dans le Troisième Reich, à travers Hitler. Donc il y a un lien un peu fatal entre Hölderlin et Hitler pour Heidegger.
Adrien Fonsonneur.
Là, il faut être un peu précis sur les dates, disons. Cette question du national-socialisme vulgaire et spirituel, ça c'est vrai, ça ne fait aucun doute. Je pense que passer la démission du rectorat, c'est quelque chose à quoi il ne croit plus. Je pense qu'il a compris. Mais c'est vrai que pendant l'année 1933, et là, il y a les allocutions, des textes, etc., il essaye de donner un sens à cette tournure d'une manière effectivement utopique, parce qu'il redéfinit tout national, ça n'est pas national au sens de la naturalité, etc., etc. Socialisme, il y a une définition très étonnante du socialisme, c'est-à-dire il redéfinit, et il ne faut jamais oublier que quand Heidegger s'engage aux côtés de Hitler, et ça ne fait aucun doute, du reste Heidegger, je ne suis pas sûr que ce soit si crypté, parce que quand il s'engage pour Hitler, il le dit, et c'est marqué. Et c'est d'une grande tristesse pour tout le monde de lire des textes qui sont signés à Hitler en bas du texte. Quand il ne s'y engage plus et quand il s'en détache, il le dit aussi, etc., etc. Quand il s'engage, ça ne va pas sans une redéfinition précise de tous ces termes, national, socialiste, etc. C'est pour ça qu'il est effectivement seul. Et quand il comprend qu'il est tout seul là-dedans, la rupture est sans retour possible.
Et total. Mais alors, en même temps, là, je voudrais quand même, pour les auditeurs, essayer d'expliquer la raison qui fait que, malgré ces documents, malgré ce que nous venons d'apprendre et ce que nous apprendrons peut-être encore, le dossier s'alourdit. Vous et moi, nous lisons Heidegger. Au fond, nous avons besoin de lui. C'est important parce qu'il y a cette position qui est tenue par Emmanuel Fay, qui consiste à dire Heidegger, c'est l'introduction du nazisme dans la philosophie. Donc, il faut arrêter de le lire parce que le lire, ça pourrait conduire à une nouvelle traduction dans les faits d'une criminalité dont l'humanité pourrait ne pas se relever. Hitler essaime dans les écrits de Heidegger.
Oui, bien. Même Derrida maintenant.
Oui. Je voudrais essayer de répondre moi-même un peu à tout cela. Mais par exemple, je lisais dans Le Point, il y a tout un dossier sur ce qu'on appelle les néo-conservateurs. Alors, c'est toujours des listes, enfin, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que je lis une interview de Jacques Julliard sur la question du progrès. Et il a cette phrase extraordinaire, la gauche ne peut pas divorcer du progrès, il y a des gens qui refusent aujourd'hui le progrès. Et il a cette phrase, on n'arrête pas le progrès et la technique est neutre. Je trouve ces deux propositions extrêmement intéressantes, parce que si on n'arrête pas le progrès, cela veut dire qu'il faut congédier Prométhée, puisque le progrès est destinal. Ce n'est plus une figure héroïque, c'est une figure destinale. Et la technique est neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'en servir dans un bon sens et dans un mauvais sens? Ou est-ce que ça veut dire que Tout peut être installé, commis, mis en demeure de servir, intégré dans quelques finalités, utilisé. Or, c'est cela que dit Heidegger. Il y a cette neutralisation du monde parce que la technique dévoile l'être dans l'horizon de ce dont on peut passer commande, du commanditement. C'est, et vous le dites très bien dans l'article fond disponible du dictionnaire Heidegger, Adrien France Lanor. Et je lis L'ère du vide de Lipovetsky, un livre qui a beaucoup compté. Eh bien, il dit aujourd'hui, l'identité nationale, tout comme celle des femmes, devient maintenant négociable. L'identité comme telle entre dans l'ère des choix et des combinaisons libres, à l'instar des horaires de travail ou de l'achat dans les hypermarchés. Autrement dit, il n'y a plus rien qui exige le respect pour sa différence. Il n'y a aucune identité à respecter, aucune historicité originaire, aucun sol, aucune différence antérieure à l'action humaine. Ça, c'est ce que disent les sociologues de l'actualité, mais ce faisant, ils corroborent la réflexion heideggerienne sur la technique et le monde où elle nous entraîne. Donc, voilà. Et donc, quelle que soit, encore une fois, la force des réquisitoires anti-heideggériens, la lecture du monde moderne ne peut pas se passer de Heidegger. On le voit jusque chez ceux-là même qui ne l'ont pas lu.
Oui, Christian Sommer. Je crois que vous pointez là un problème réel. C'est-à-dire que, bon... On ne va pas revenir sur les polémiques, évidemment, que je trouve souvent assez violentes et superficielles. Mais il faut comprendre qu'il faut sortir de cette dualité. Si Heidegger, grand penseur, alors pas nazi, ça concerne plutôt certains défenseurs de Heidegger un peu dogmatiques. Ou d'autre part, si Heidegger, grand penseur, pas nazi, mais si Heidegger... nazi, alors pas grand penseur. On peut souscrire tout à fait. Enfin, je souscris à ce qu'a pu dire Emmanuel Levinas.
La dette qu'on a quitte à regret. Oui.
Voilà, il y a la phrase de la dette, mais il y a aussi une autre phrase où il dit, en gros, il dit Levinas, voilà, Heidegger est le plus grand penseur du XXe siècle, mais il avait sa carte du parti nazi. Voilà le nihilisme. Et ça nous donne à penser. Je crois vraiment, ça nous donne à penser les deux pôles comme ça, assez déchirants. Et je voudrais dire aussi que pour aborder ces problèmes, je crois qu'il faut une sorte de pluralisme dans l'interprétation. Alors, je voudrais dire un mot quand même, si je peux, du dictionnaire Heidegger.
Bien sûr.
Il en est question. Donc je voudrais que les auditeurs sachent. Ça ne va pas de soi que, à mon sens, c'est un dictionnaire bon, qui est impressionnant, qui est très, très lourd, hein, mais aussi hein, un kilo au moins, mais qui est un tout petit peu orienté, je dirais, qui est même un peu tendancieux. Je l'ai ressenti comme ça. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas dire voilà, qu'il est agiographique, mais parfois, et selon les notices, parce qu'il y a quelques bonnes notices, j'ai l'impression que Heidegger n'est pas justement traité en philosophe, mais en saint. Il y a des anecdotes, etc. Bon, ça, c'est une chose. Bon, c'est un peu l'atmosphère. Bon, c'est subjectif, peut-être. Mais il y a plus. Ce qui me paraît étrange, c'est que le dictionnaire est un peu en autarcie. C'est-à-dire qu'il est coupé de la recherche internationale qu'on a pu faire sur Heidegger depuis 50 ans. Ça, il n'y a pas de chercheurs français ou internationaux qui sont cités dans ce dictionnaire. Ce qui est quand même étrange, parce qu'il y a énormément de recherches sur Heidegger. Donc ça, c'est un point un peu curieux. Voilà.
Ça, c'est un point très clair. C'est une différence de style, je pense qu'il y a... Ça, sur ce point-là, c'est très simple. La question de la recherche, qui est... Heidegger en a parlé de la recherche. Comment justement, une certaine forme de déploiement, parfois universitaire, mais pas seulement, se sert des textes comme objet de recherche. Effectivement, ça pose un problème dans l'accès à Heidegger qui a précisément thématisé ça. Comment on met à disposition les textes ? C'est la différence qui fait entre un objet de pensée et un objet de science. Le dictionnaire se présente comme un objet de pensée. Et la recherche... Parfois, pas toujours, mais souvent,
a une tendance à se présenter comme un objet de science. Et par exemple, si je prends votre livre, Christian Sommer, il y a 54 pages de texte. Sur les 54 pages de texte, il y a 11 pages de bibliographie et d'index. Et chaque page est constituée presque la moitié de notes. Alors là, il y a beaucoup de recherches. Effectivement, il y a beaucoup de références. Je ne suis pas sûr, moi, que l'accumulation systématique de références et de recherches des génétiques, des concepts, etc., soit toujours la mieux à même de nous mettre en face des phénomènes. Et il s'agit quand même d'un phénoménologue. Il y a une originalité du texte face à laquelle il faut se mettre. Et la recherche, elle fournit certains résultats, mais le mot résultat est lui aussi problématique. C'est une différence de style, ce qui ne veut pas dire que ça s'exclut, mais c'est une différence dans la manière de travailler.
Le fait que 99% de la recherche heideggerienne dans le monde est exclue. Donc voilà, vous avez un style assez singulier.
Excluez, c'est vrai. Comme vous excluez par principe tout le travail qui se fait dans le dictionnaire. Donc
sur cette question de la sanctification de Heidegger, il y a sans doute des choses à dire, mais en même temps, les questions politiques, les questions difficiles sont abordées, je l'ai dit dans mon introduction, ça m'a beaucoup frappé, de très nombreux articles sont consacrés à ce problème.
C'est vrai, mais j'ai feuilleté le dictionnaire, vous avez raison, mais j'ai l'impression que c'est toujours... Comment dire, une sorte de défense, Heidegger, systématique et compulsive.
Je crois qu'il y a une nouvelle tonalité dans ce livre. Si vous lisez précisément les articles politiques...
Ça ne m'a pas frappé.
Et j'attire votre attention sur le fait, puisque le défenseur des défenseurs, enfin la caricature qu'on en fait, c'est François Feydier. François Feydier n'a fait qu'un seul article politique. J'y tenais beaucoup. Il n'a fait que nazisme. Tous les autres articles politiques sont d'un autre ordre, d'un autre ton. Il y a des nouveautés aussi par rapport à l'ensemble des textes qui avaient paru. Et j'ai l'impression que ce sont des textes qui ouvrent des questionnements nouveaux, pas du tout sur un mode défensif.
Alors, oui, c'est pas l'impression que j'ai eue. Bon. Ah, excusez-moi. C'est pas comme ça. Moi, je voudrais qu'on soit au-delà, justement,
critique
virulente ou de défense de Heidegger. On a l'impression que... Enfin, moi, ce qui m'a manqué dans ce dictionnaire, c'est l'esprit critique. Où est-ce qu'il est?
Regardez l'article allemand, la bêtise de Heidegger est analysée en détail.
Pas de citer Heidegger.
Non, regardez l'article. Alors, regardez l'article du peuple.
Vous disiez Christian Sommer, avec Lévinas, c'est peut-être le plus grand philosophe du XXe siècle, mais... En quoi, et je reviendrai après à la question de la sanctification et éventuellement des traductions de Heidegger. Oui. Je prends votre article, Adrien Franslaner, Fonds disponible. Fonds disponible, ça traduit Der Bestand, la manière justement dont la réalité se tient aujourd'hui, non plus comme objet, mais comme fonds disponible. Et Heidegger parle de la Bestellbarkeit, la possibilité constante d'être commandé et commandité, c'est-à-dire d'être en permanence à disposition. L'étang est posé comme fondamentalement et exclusivement disponible pour la consommation dans le calcul global. Tout ça quand même avant la toile, avant Internet. Et vous dites le vent qu'exploite écologiquement l'éolienne est tout autant fonds techniques disponibles que le diesel qui alimente les voitures. De même, le Rhin est aussi bien fonds disponible comme pression hydraulique pour la centrale que comme paysage pour la visite touristique organisée. Or, j'ai lu plusieurs textes de Michel Deguy sur ce thème où il montre très bien, à la suite de Heidegger, que le culturel, et nous vivons sous l'égide du culturel, c'est la culture saisie par la technique. Le tourisme aussi peut être aujourd'hui envisagé selon les catégories heideggeriennes. Donc, quand on dit grand penseur, c'est... Pour moi, penseur dont il est impossible de se passer pour penser ce que nous vivons. Alors, même s'il y a cette difficulté principielle du refus heideggerien d'être un penseur politique. Donc ça, c'est vrai. Mais est-ce que vous accepteriez cette définition de grand penseur, Christian Sommer?
Alors, moi, je pense que pour penser la technique planétaire, on n'a pas forcément besoin de Heidegger. Je veux dire, il y a d'autres grands penseurs de la technique. Évidemment, c'est un aspect, d'ailleurs, je trouve qu'il reste, sur certains points, assez actuel, la critique de Gestell, du dispositif, oui. Heidegger. Bon, mais je pense que c'est quand même un peu unilatéral et on peut tout à fait compléter ces analyses par d'autres auteurs. Donc, si pour moi, Heidegger est un grand penseur au sens où c'est une sorte de titan, de la pensée qui nous est donné en héritage avec toutes les déchirures et les contradictions qui sont aussi celles du XXe siècle. Donc il faut toujours envisager les deux, et c'est ça Heidegger pour moi. Et si on veut traverser le XXe siècle pour en sortir, il faut traverser et sortir de Heidegger aussi, d'une certaine façon. Et je pense que le dictionnaire Heidegger, par exemple, mis à part le fait que je le trouve tendancieux et un peu provincial puisqu'il se coupe de l'exégèse internationale, je pense que ce qui est plus problématique pour moi, c'est le vocabulaire et la traduction des termes de Heidegger qu'on retrouve dans le dictionnaire, mais qui font signe en fait, qui risque de non pas d'induire en erreur forcément les lecteurs, mais de les conduire, ce qui est pire, à certaines traductions très problématiques, comme celle qui vient de paraître des Beiträge zur Philosophie. Alors je traduis contribution à la philosophie, vom Ereignis, de l'événement, mais ça a été traduit donc par apport à la philosophie de l'avenance.
De l'avenance, c'est Ereignis, c'est l'avenance.
Voilà, c'est ça. On choisit maintenant de traduire, alors qu'on traduit habituellement par événement ou événement appropriant, on traduit par avenance. Alors je pense que là, il y a un peu le problème dans ce vocabulaire un peu baroque, un peu ésotérique au sens péjoratif. Alors on trouve des termes dans le dictionnaire, mais aussi dans cette traduction, puisque ça va ensemble apparemment. Abritement, étrait de lettres, avec A, I, accent circonflexe, T, R et E. De l'estre, invérité, dévalement, allégie, des obstructions. Bon, ce sont des termes un peu étranges. Ouvertude, alors, pensez à la bravitude un peu, factivité, la flagrance, le dieu à l'extrême. Bon, tout ça, c'est un peu étrange. Alors, quand on regarde la traduction des Beiträge, puisque cette traduction fait un peu écho au dictionnaire, ou disons que le dictionnaire accompagne un peu cette traduction, c'est l'impression que j'ai. Alors, il faut savoir, je fais une petite note de bas de page, il faut savoir que les Beiträge, les contributions, est considéré, je pense qu'à juste titre, comme le deuxième ouvrage fondamental de Heidegger. Donc, il était important de donner une traduction lisible. Alors moi, je pense que, malheureusement, je pèse mes mots, je suis contraint de qualifier cette traduction de catastrophique et d'illisible. Alors, j'ai pris presque au hasard deux passages, vraiment, deux passages qui m'ont vraiment laissé perplexe. Alors, il y a un passage, pour moi, inintelligible, ou involontairement comique, je ne sais pas. Je cite, c'est page 444. « La mise à l'abri pousse chaque fois en plein ouvert le se mettre à couvert, autant qu'elle-même est, de part en part, régie par l'allégie. » Fin de citation. Alors, je ne sais pas, c'est une variation surréaliste. Mais... j'ai l'impression que cette traduction, parfois, sort d'un traducteur automatique, genre Google Translate. C'est vraiment... moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment essayé. Je n'arrive pas. Mais il y a pire. Alors, je voudrais le souligner parce que c'est important. Ça en dit long sur la tendance qui règne, pas dans tout le dictionnaire, parce qu'il y a de très bonnes notices, je le répète, mais surtout dans la traduction et dans une grande partie du dictionnaire. C'est un esprit qui va jusqu'à la falsification. Alors, dans cette traduction... ce qui m'a choqué, c'est que le traducteur rend le terme de völkisch, hein, bon, je ne vais pas me risquer à le traduire, on va dire ethno-national, ethno-populaire, mettons entre guillemets, il rend völkisch, völkisch et idéen dans le texte, il le rend par, en français, idée nationale socialiste. Mais c'est, pour moi, c'est du caviardage, excusez-moi, ou de la falsification.
C'est clairement une critique précise.
Mais non, mais
de Heidegger, le texte de Hitler et Hitler. Du mouvement
mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'interprétation. Le
donc
texte
c'est une
dit
évidence. Et il y a une note du reste. Donc,
le texte dit noir sur blanc, idée völkisch. Et là, dans la traduction, on a idée nationale socialiste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une falsification. Donc, on peut pas se fier à cette traduction.
Et alors, dans un sens, quand il critique völkisch, on lui reproche on reproche ça. Et puis alors, quant à Heidegger. Très rarement, dans quelques allocutions, emploie le mot völkisch. Alors, si on ne traduit pas par idée nationale socialiste, on dit « Ah, mais là, vous falsifiez
mais
les textes. »
Mais en allemand, il y a le terme « national socialiste », ce
oui,
qui
mais
n'est
enfin,
pas
vous
völkisch.
N'ignorez pas que völkisch, c'est le mot d'ordre du mouvement
mais
nazi.
C'est beaucoup
enfin,
plus compliqué. Mais c'est...
alors, dans un sens, on, écoutez, on peut, et dans l'autre sens, on ne peut pas. Non, c'est
mais les auditeurs jugeront. La question de la traduction. Christian Thomas parlait de la sanctification de Heidegger, mais effectivement, avec tous ces mots mise à l'abri, oui, allégissante, fondamentation, etc., il s'agit de la traduction de François Fédier, donc des apports à la philosophie. Oui. Eh bien, on a le sentiment que Heidegger risque de devenir le gourou d'une secte étrange qui, étant donné qu'elle veut donner un nouveau commencement à la pensée, quitte un peu la langue commune, ce que l'allemand permet dès lors qu'on en fait une traduction littérale. Et il est vrai que cette tendance à la traduction littérale est très forte et ne concerne pas seulement Heidegger. Elle abîme beaucoup de traductions, mais pour Heidegger, ça a cet effet un petit peu. On se l'approprie et on dit voilà, il y a tout un travail à faire pour sortir de la philosophie et entrer avec nous dans la secte de l'autre pensée.
Oui, alors d'abord,
Adrien,
ce serait bien de donner la parole à François Fédier sur cette traduction. Il aurait sûrement beaucoup de choses à vous dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec tous les choix de traduction. Et c'est des discussions, ça. Mais il faut, première chose, c'est facile de pointer comme ça des mots, oui, ici et là, en disant « ah, ceci, cela », etc.
Il y en a beaucoup.
C'est facile de pointer des mots. Quelqu'un qui regarderait le détail de cette traduction, comment c'est écrit en allemand, la difficulté extrême du texte allemand, et comment François Fédier fait un travail admirable de dentelle. On peut discuter sur tel ou tel mot, sur fondamentation, sur allégie. Moi, je suis plutôt pour un autre mot que allégie, etc. C'est pas... Mais c'est une discussion, ça. Dans le dictionnaire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec toutes sortes de traductions. Il y en a qui sont pour événements. C'est ouvert, ça, dans le dictionnaire. Donc, c'est déjà pas une secte. Ce sont des problématiques ouvertes. Il faut regarder. Il y a une phrase à traduire. Et la phrase, elle pose des problèmes énormes pour l'accueillir dans notre langue. Et l'originalité de François Fédier, c'est comme il se libère d'une traduction, justement, Google, dont vous parlez, c'est-à-dire terme à terme, et où on mettrait au fond... ça c'est événement, on met une note, on dit c'est Aragnis et on fait système. Il ouvre la phrase française pour faire ça. Il fait tout un travail très très précis face à des mots qui en allemand sont très complexes. Et en allemand c'est très dur.
Oui, pour c'est très difficile.
Ce que vous dites là du français,
c'est très
les Allemands le disent du texte allemand.
Alors justement, mais alors.
Et il ne faut pas oublier, dernière petite chose,
pardon,
il y a des mots, on oublie ça, ça fait partie du travail philosophique de la traduction. Ousia, quand Aristote prend le terme ousia en grec, qui est un mot courant pour dire le fond, etc., et que ça a été traduit par substance, les gens peuvent s'insurger en disant c'est une honte, pourquoi ça n'a pas été rendu par ce qui est présent, etc. C'est aussi la grande aventure, c'est une aventure la traduction,
alors,
une aventure de la langue.
D'accord, alors simplement, revenons au texte. Beiträge. On en attendait la traduction avec impatience. On dit que c'est un des textes les plus importants de Heidegger. Et il y a ce mot, en effet, dans le titre, « Ereignis », qu'on oppose souvent au Gestell, le raisonnement, le dispositif, la consommation. Et d'ailleurs, Michel Arr se pose la question, une politique de l'Ereignis a-t-elle un sens? Alors, vous êtes philosophe, vous êtes professeur. Qu'est-ce que c'est, l'Ereignis? Première question. Et deuxième question, en quoi apport à la philosophie, traduit différemment peut-être, est-il un livre important? Christian Sommer. C'est dur, hein?
Oui, là, c'est une question. Il faudrait,
organiser plusieurs journées d'études.
Non, alors, moi, je pense que, bon, déjà, si vous voulez, c'est évidemment beaucoup de chercheurs, d'exégètes, d'interprètes, universitaires, lisent le Beiträge en version originale. Mais il y a beaucoup de chercheurs, de philosophes qui s'intéressent à cet ouvrage et qui sont obligés de passer par cette traduction qui, à mon sens, fait obstacle. Vraiment fait obstacle. C'est vrai que le texte, à l'origine, n'est pas facile. Mais là, on a quand même l'impression que cette traduction dessert
regardez
l'auteur
comme
qu'elle
la phrase
voudrait
de François
servir.
Fédier est ouverte.
Pourriez-vous,
répondez un peu à cette question quand même. Pourquoi ce livre est important et qu'est-ce que c'est que ce concept, cette notion étrange, malgré tout, d'avenance, d'événement d'Ereignis? Essayez de me répondre.
Ereignis, c'est très complexe. Si vous voulez parler de traduction, des traductions de François Fédier, il y en a au moins une dizaine.
Non, mais c'est pas la traduction, c'est le concept lui-même.
C'est quelqu'un qui n'arrête pas de changer les traductions.
Alors, mais non, mais
rien
voilà,
n'est fixé.
On le dit en allemand.
Donc,
Ereignis,
ça a à voir avec, effectivement, le fait que quelque chose, à première vue, advient. Et en réalité, ça n'est pas le sens étymologique sur lequel revient et travaille Heidegger. Il joue entre les deux plans de, en un sens, l'événement, tout en disant, en toutes lettres, il y a une lettre à Roger Munier où il dit « Parfois, je n'emploie même plus Ereignis parce que le mot veut trop dire événement. J'emploie Ereignis pour pas qu'on entende le côté événementiel. » Donc, c'est problématique, événement. Hein, c'est pas simple. Ça a à voir avec l'œil, avec quelque chose d'imperceptible qui nous arrive, qui nous approprie, et c'est la manière dont, si vous voulez, l'être s'adresse et à l'être humain et le requiert de manière à la fois très bouleversante et très imperceptible. Et donc ça dit quelque chose de ce mouvement, et d'où après la Kehre im Ereignis, le tournant dans le mouvement entre être et être humain, de mutuelle appropriation, si vous voulez.
Quelle relation y a-t-il justement entre ce Gestell, dispositif où on pense avoir la réalité bien en main, etc., grâce à la technique, par la technique, et les Ereignis, c'est quoi ?
Oui, ça, il y a un endroit, justement, il ne faut pas opposer, il n'y a pas de manichéisme chez Heidegger, c'est... Il n'y a pas la diabolisation de la technique, etc. C'est la technique, dit-il à un endroit, le Gestell est le négatif photographique de l'Ereignis. C'est-à-dire que dans la mesure où l'Ereignis dit comment l'être fait événement, si vous voulez, oui, fait époque, se manifeste et s'adresse, la technique, si on comprend bien que la technique, chez Heidegger, ça ne veut pas dire les machines.
Oui, bien sûr, oui.
Mais que c'est ça veut dire un mode de dévoilement de la vérité, oui. Effectivement... Le Gestell dit encore quelque chose d'un rapport à l'être et de quelque chose qui nous est adressé et dont nous avons à répondre. Donc négatif photographique et non pas contraire ou opposition manichéenne, si vous voulez.
Bon, eh bien, écoutez, nous en resterons sur ce début d'explication et je renvoie alors au dictionnaire Martin Heidegger, dont nous avons parlé et qui a été écrit sous la direction de Philippe Arjakovsky, François Fédier et vous-même, Adrien France Lanor. Christian Sommer, vous avez publié aux éditions Hermann, Heidegger 1933, le programme platonicien du discours du rectorat. Je rappelle que le dictionnaire Martin Heidegger est publié aux éditions du CERF et que Apport de la philosophie, les fameux Beiträge, traduits par François Fédier, sont publiés aux éditions Gallimard. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site réplique-franceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « France, la grande mutation ». Mes invités seront Laetitia Von Eekhout et Michel Tribala. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Nochard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Claire Levasseur. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.